Les chroniques du vivant de Corinne.
La loi du plomb, une aberration pour la transition écologique, un crime contre le vivant. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette dernière chronique de la saison, je tiens à pousser un nouveau cri d'alarme sur la destruction du vivant. Un projet de loi censé lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur a été présenté par le sénateur Laurent Duplomb, ex-président de la FNSEA de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire, et a été voté au Sénat le 28 janvier dernier et présenté pour examen le 26 mai en commission à l'Assemblée nationale. Or, ce projet de loi n'a pas pu être discuté car il a fait l'objet d'une motion de rejet demandée par le rapporteur même du projet, Julien Dive, ce qui peut paraître assez ahurissant. Mais pas du tout. En fait, cela permet d'éviter les débats autour des nombreux amendements déposés tant le sujet est brûlant et de passer en force par le biais d'une commission paritaire mixte réduite où le vote de cette loi est quasiment acquis. Le texte ne sera donc même pas débattu à l'Assemblée nationale, malgré tout le travail des commissions, alors qu'il concerne au plus haut point notre environnement, notre biodiversité et surtout notre santé. Drôle de démocratie que celle où l'on empêche les débats par motion de rejet pour faire passer en force des projets de loi écocidaires. Cette loi met encore une fois l'accent sur la productivité en réautorisant, entre autres, l'emploi d'un néonicotinoïde tueur d'abeilles et d'autres pollinisateurs, interdit depuis 2018, l'acétamipride, alors que nos sols sont de plus en plus stérilisés par l'agro-industrie et les pesticides. Écoutons un extrait de l'intervention de Philippe Grandcola, écologue, directeur de recherche au CNRS, lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale le 6 mai dernier.
Pour commencer de manière préliminaire, je voudrais juste rappeler un avis d'alerte émis par l'Académie des sciences en 2021, dont j'avais été le coordinateur avec la secrétaire perpétuelle, et qui alertait à ce moment sur le déclin des insectes. Déclin des insectes qui était causé en grande partie, bien sûr, par l'utilisation de pesticides, notamment ces fameux néonicotinoïdes, et puis par la disparition des habitats dans lesquels ils peuvent vivre, et le tout dans des paysages qui sont de plus en plus agro-industriels, si je puis dire. Alors, pour continuer sur ce déclin, en fait, toutes les études scientifiques en Europe, y compris d'ailleurs une étude participative récente issue du Royaume-Uni, qui a été beaucoup commentée dans la presse, toutes les études scientifiques montrent qu'il y a un déclin très important dans les populations de la plupart des espèces d'insectes, déclin de l'ordre de 70 à 90% dans les paysages les plus impactés par l'utilisation des pesticides, la perte d'habitat. Et en fait, ce déclin, il faut se rendre compte, est compliqué à établir, tout simplement parce que les insectes représentent un groupe d'insectes très vaste, 40 000 espèces en France métropolitaine, dont 4 000 espèces sont potentiellement des pollinisateurs. Et donc, ce n'est pas seulement, vous le comprenez, à l'énoncé de cette qualité de pollinisateur, la disparition des insectes, c'est pas seulement un problème éthique, c'est aussi un problème qui n'est pas à opposé aux intérêts d'un certain nombre de filières agricoles, mais au contraire à travailler de manière à forger de bons compromis, puisque les trois quarts des plantes, y compris plantes cultivées, doivent être pollinisées par des insectes pour produire. Hors céréales, hors betteraves, hors noisetiers, qui sont des plantes pollinisées par le vent, on a des pertes de productivité qui ont été mesurées dans un certain nombre de systèmes agricoles suite au déclin des pollinisateurs, qui se monte de 5 à 80% de la production. Et donc, bien évidemment, ça affecte la rentabilité d'un certain nombre d'entreprises. On peut mentionner, par exemple, des expériences menées avec 400 entreprises agricoles dans une zone atelier du CNRS et de l'INRAE, en plein Éval de Sèvres, hein, qui montrent, par exemple, que même la culture de colza cultivée de manière conventionnelle, baisse en production de 30% s'il n'y a pas de pollinisateurs. Donc la perte de pollinisation, c'est pas seulement un problème éthique, c'est pas un problème de naturaliste, c'est pas un problème d'écologue, c'est un problème aussi agricole. Et je dirais la question des pesticides en particulier, avec leur activité toxique, c'est aussi une question de santé, au premier chef pour les agriculteurs ou pour les personnes qui sont exposées, comme les riverains. On le sait, il y a un certain nombre d'études qui montrent que, à travers des cohortes qui ont été étudiées de manière épidémiologique, que les molécules pesticides ont des effets importants sur la santé humaine, mais c'est mon collègue qui en parlera un peu plus. Alors, je voudrais aussi rappeler un certain nombre de faits, hein, que la baisse des intrants dans les systèmes agricoles, y compris grandes cultures, est parfaitement possible. Dans la zone atelier que je viens de mentionner, on a montré qu'on peut baisser les intrants de 30% sans perte de rentabilité sur des cultures blé, maïs, colza. C'est parfois difficile à mettre en place à cause de contraintes structurelles locales, mais c'est tout à fait possible. Il faut se rappeler aussi que les pesticides que l'on met dans le milieu naturel ne sont pas des molécules qui s'évanouissent immédiatement. Des molécules, par exemple, y compris comme celle de l'acétamipride qui a été évoquée, elles peuvent durer de quelques mois à quelques décennies dans le milieu naturel. Donc quand on met une molécule dans le milieu naturel, elle ne s'évanouit pas dans les jours qui suivent et elle continue à avoir une action négative, potentiellement pendant des années.
Rappelons tout de même que selon France Nature Environnement, la France est déjà le deuxième plus gros consommateur de pesticides et le deuxième pays qui autorise le plus de pesticides en Europe. Cette agriculture industrielle contribue pour 20% aux émissions de gaz à effet de serre et participe donc au réchauffement climatique avec les sécheresses et la destruction d'écosystèmes qui en découlent. C'est un cercle vicieux. Cette loi encourage également l'épandage de pesticides par drone. On croit rêver, ou plutôt cauchemarder. Ouvrons les yeux. Les sols ne peuvent plus jouer leur rôle. Leur fertilité et leur vie s'éteignent peu à peu sous l'empoisonnement permanent et croissant qu'on leur inflige, sans compter la pollution généralisée des nappes phréatiques. Comment ne pas voir qu'il faut cesser au plus vite d'investir dans des voies mortifères et que c'est notre modèle agricole qu'il faut changer? Et ce n'est pas parce que certains pesticides sont encore autorisés dans d'autres pays de l'Union européenne, d'ailleurs pour une durée limitée, que cela doit nous entraîner à suivre des schémas destructeurs du vivant. Ce système agro-industriel engendre des effets collatéraux multiples, mais jamais chiffrés, sur la santé, l'environnement, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, tout ça au nom de la souveraineté alimentaire. Et c'est sans compter que rien n'est prévu pour améliorer le revenu des agriculteurs. Par contre, au lieu de les aider, on les encourage à faire de fait à sacrifier leur santé, mais aussi celle de leurs enfants et des riverains des parcelles soumises aux épandages.
Écoutons Christian Ponce, apiculteur, président de l'UNAF, Union nationale des apiculteurs français, lors de la conférence de presse précédemment citée.
Et j'entends aussi, puisque ce terme fait penser à autre chose, souveraineté alimentaire. C'est un mot qui me fait assez rigoler, moi. Ça veut dire quoi? Mieux vendre à l'étranger à des coûts plus bas? Parce qu'on va mettre des pesticides, des insecticides? C'est complètement une hérésie, une aberration. Le revenu des agriculteurs parce qu'on va mettre plus de pesticides? Quelle foutaise. J'ai parlé avec beaucoup d'agriculteurs. Ce qui compte pour eux, c'est leur revenu, ce qui leur reste dans la poche. C'est pas la production. C'est une grosse, grosse erreur. Ça veut dire, on veut nous parler de souveraineté alimentaire à l'export, mais pas chez nous. Grosse erreur là aussi.
De plus en plus de voix de scientifiques et de médecins s'élèvent pour dénoncer les répercussions de ces pesticides, alors que les connaissances scientifiques témoignent de plus en plus de leurs risques sur la santé publique.
Michel Campano, médecin membre de l'Association des médecins contre les pesticides, évoque le sujet, toujours au cours de la même conférence de presse.
Donc l'acétamipride, encore utilisé dans certains pays européens, fait figure d'un néonicotinoïde sûr. Alors, c'est à ce titre que la loi du plomb prévoit de le réautoriser à la demande de les betteraviers et aussi la filière noisette. Plusieurs publications récentes démontre qu'il n'est pas aussi anodin que ses défenseurs le prétendent. Alors, tout d'abord, sa reprotoxicité, donc la toxicité qui altère aussi bien la fertilité ou le développement du fœtus. Alors, tout d'abord, l'étude de Gomez en 2020 a montré que l'acétamipride est cytotoxique sur des cellules trophoblastiques du premier trimestre. Ce sont des cellules à l'origine du placenta. Mais surtout, non plus dans des études cellulaires, mais épidémiologiques, dans l'étude d'Ishikawa en 2019, par son lien avec les retards de croissance constatés sur un échantillon de 57 nouveau-nés exposés à l'acétamipride. Les taux urinaires à la naissance d'un métabolite de l'acétamipride étaient plus élevés chez les nouveau-nés en retard de croissance. Dans l'étude de Wong, a été mise en évidence que plus la concentration d'un métabolite de l'acétamipride augmente dans le sperme, plus la qualité de ce dernier se dégrade. On le détectait dans 98,4% des cas dans une population de 191 sujets consultant dans un centre d'hypofertilité. Alors, je vous rappelle cette méta-analyse de 2017 qui a mis en évidence que la qualité du sperme, à part la production de spermatozoïdes, était abaissée de plus de 50% entre 1973 et 2011. Donc, moins 50% en à peu près une trentaine d'années. La contamination toxique est évidemment à prendre en compte, et notamment l'effet cocktail. Donc ça, c'était en 2011. Je vous laisse imaginer où on en est maintenant. Ensuite, sa neurotoxicité, donc la toxicité sur le système nerveux. Elle est logique par le mode d'action. Ça bloque l'acétylcholine, qui est le principal neurotransmetteur du système nerveux. Et il est commun aux insectes et aux hommes. Donc, dans l'étude de Ramirez en 2023, l'acétamipride est neurotoxique par exposition chronique, comme il a été souligné tout à l'heure, sur des cellules issues des neuroblastomes. Par ailleurs, très important, il a été retrouvé le principal métabolite de l'acétamipride dans le liquide céphalo-rachidien des enfants, dans l'étude de Jingli en 2023. De même, dans le liquide céphalo-rachidien d'enfants atteints d'hémopathie maligne, dans l'étude de Lochner en 2022. Donc, on retrouve un produit neurotoxique dans le cerveau en développement des enfants.
1279 médecins, chercheurs, scientifiques ont signé une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé, de l'Agriculture, du Travail et de la Transition écologique sur les menaces que ce texte engendre sur la santé publique. Ils alertent également sur l'affaiblissement de l'indépendance de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, chargée d'évaluer et d'autoriser la mise sur le marché des pesticides. En y adjoignant la création d'un conseil d'orientation pour la protection des cultures sous l'autorité du ministère de l'Agriculture, mais qui pourrait intégrer par décret certains représentants de firmes de l'agro-industrie. Inutile de faire davantage de commentaires. Cette loi facilite aussi l'installation et l'agrandissement des élevages intensifs en élevant les seuils soumis à autorisation, les ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Doit-on rappeler que tous ces élevages intensifs, véritables centres de souffrance animale, contribuent déjà massivement à polluer les sols et les eaux et constituent de sérieuses menaces pour la biodiversité? Doit-on rappeler le phénomène des algues vertes qui rendent inaccessibles certaines côtes bretonnes tant la pollution est dangereuse et l'air irrespirable?
Pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands. De nous voir tous lever tous au petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées de longtemps. La barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. Bien pire après, alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, Laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je ne veux plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder marcher, la regarder grandir, et puis de temps en temps, lui parler de voyage, fabuleux paysage dans la course du temps. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants.
Plomb faciliterait aussi l'accaparement de l'eau par la construction de méga-bassines élevées au niveau d'intérêt général majeur, alors que ces dernières ne profiteront qu'à un nombre réduit de gros agriculteurs œuvrant essentiellement pour l'export. Le captage des eaux de pluie assez fin ne tient bien sûr pas compte des besoins en eau des cours d'eau et des zones humides qui ne recevront plus ainsi l'eau détournée. Elle rajoute de plus un nouveau type de zone humide fortement modifiée dans laquelle certaines installations impactant le cycle de l'eau pourraient ne plus être soumises à autorisation ou déclaration. Bien sûr, tout ceci se fait avec une réduction, parfois une suppression du recours à la consultation citoyenne. Ce texte reprend fortement les axes développés par la FNSEA et même la coordination rurale dans sa formulation même et est loin d'être le reflet de la parole d'une majorité d'agriculteurs et de paysans. Je vais arrêter là mes commentaires sur cette loi qui, si elle est votée, va être un fléau et un nouveau coup dur pour l'environnement. Alors que nous l'avons souvent évoqué au cours de ces chroniques, d'autres solutions existent et œuvrent à la préservation de la biodiversité. Je conclurai donc par une citation d'un texte de France Nature Environnement. Les alternatives existantes ont fait leurs preuves. L'agroécologie paysanne et l'agriculture biologique redéfinissent notre rapport au vivant et répondent efficacement aux enjeux de climat et de biodiversité, tout en assurant la souveraineté alimentaire. Il est temps que l'État et les parlementaires fassent le choix d'accompagner la transition vers une agriculture respectueuse du vivant et assurant une juste rémunération aux agriculteurs et agricultrices, plutôt que de maintenir artificiellement un modèle industriel déconnecté des territoires et des ressources pour satisfaire la FNSEA et l'industrie agroalimentaire. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez tous les liens des sources évoquées dans cette chronique sur notre page Radio Pays d'Hérault. Je remercie encore une fois Axel à la technique et vous souhaite à tous un très bel été.
Les chroniques du vivant de Corinne.